La terre, c'est sacré. Hein.
Aujourd'hui, on est agriculteur, on est des pouilleux. Non, c'est plus ça.
Faire, faire.
Oh, il est magnifique.
La Terre Ferme, un podcast des étudiants du QEJ.
La pluie du matin n'arrête pas le terrain.
Épisode 7, une rivière vivante.
Bouge plus.
Faire, faire.
Bon, il est là, c'est cool. Prends ton temps. Je prends autant de plaisir quand il prend du poisson, franchement. Il est au bout ?
Ouais, ouais, il est
au bout. Ouais, ouais. Il est chouette, franchement, il est beau. Oh, il est magnifique, regarde. Voilà. Il est beau, il fait 40, ah, franchement, ouais. Il est beau.
Bravo, oh, je suis content pour toi.
Si on n'a plus de poissons dans nos rivières, déjà c'est triste quand même pour les générations qui arrivent. Et on est en train de perdre notre patrimoine. Donc pour nous, c'est catastrophique si on en arrive là. Voilà. Puis si on perd nos poissons, ça découlera aussi du reste. C'est-à-dire que le milieu en général sera impacté. Parce que les poissons, c'est quand même des indicateurs de la bonne qualité des cours d'eau. Si on n'a plus de truites dans nos cours d'eau, c'est-à-dire que nos cours d'eau seront pourris. Ouais, c'est dommageable pour tout le monde, quoi. Faut qu'on soit vigilant, et nous les pêcheurs, on est quand même les premières vigies de la rivière. On a notre rôle à jouer aussi dans le voilà, dans la nature, quoi, tout simplement.
Tense 43190.
Des poissons morts, une odeur inhabituelle ou encore de l'huile qui flotte à la surface. Les pêcheurs sont les premiers à repérer quand ça cloche. Georges Bariol est président de l'association de pêche de Tense.
Il s'est échappé entre 50 et 70 mètres cubes de lisier. Un tuyau d'une méthanisation qui a claqué.
À peu près 1500 truites d'eau morte de ramasser. L'ammoniac, ça leur attaque tout de suite les voies respiratoires. Elles meurent effectivement d'asphyxie.
La Fédération de pêche de la Haute-Loire va sur le terrain pour constater les dégâts. Pour cela, elle va compter les poissons qui restent.
On va conduire deux pêches électriques à l'endroit de l'arrivée de la pollution. On va repêcher ces sites sur lesquels on a des données en 2013, 2015, 2017. On pourra comparer les résultats et mesurer l'impact de la pollution.
Donc on attaque la pêche électrique là. On est sous la zone de pollution. Le principe, c'est que le courant électrique va créer chez eux une espèce de paralysie et mon collègue les épuisette. On a des données sur ce site avec une abondance importante de truites. Il n'y a que cette espèce ici, la truite commune. Plusieurs milliers de truites par hectare.
Vous avez trouvé quoi là du coup?
C'est une truite de rivière avec un fond jaune, avec des points rouges et des points noirs. Elles frétillent parce qu'elles sont jeunes, avec des belles nageoires oranges.
On est amoureux de nos truites, nous. C'est la belle couleur.
Comment vous faites pour les compter là du coup?
Ah bah, ça va être simple. On va toutes les mesurer.
107 mm, 18 grammes. 117, 18 grammes. 124, 18.
Et ben voilà, pour les poissons. Il n'y avait pas grand-chose. Hein.
Et maintenant, vous faites quoi avec les poissons que vous avez capturés?
On va aller les relâcher dans le ruisseau. Comme ça, ils vont poursuivre leur vie.
Stéphane Nicolas, hydrologue.
Il y a deux éléments importants. Premièrement, il reste des truites sur le tronçon pollué. Ce qu'on ne peut pas savoir, c'est est-ce que c'est des poissons qui ont supporté la pollution? Ou est-ce que c'est des poissons qui ont dévalé de l'amont proche non pollué sur la zone polluée une fois que la pollution était passée? Je dirais que la deuxième hypothèse est plus probable. Donc là, on a 1500 truites par hectare. Il y a 4 à 5 fois moins de truites que lors des derniers suivis au même endroit de ce site-là. Le dernier suivi le plus récent est en 2017. Voilà. Après, aucune inquiétude sur le ruisseau à moyen terme parce que c'est une rivière qui est en bon état. Très vite, la recolonisation du milieu va se faire. La nature ayant horreur du vide, les zones vierges de poissons sont très vite recolonisées quand la qualité des habitats au sens large le permet, ce qui est le cas ici, ce qui est une rivière franchement en bon état.
La bonne santé des cours d'eau ne va pas de soi. Lionel Martin, le président de la Fédération de pêche de la Haute-Loire, traque les pollueurs.
Ce matin, je me suis amusé. J'ai déposé 3 plaintes ce matin pour des pollutions. 3 secteurs d'industrie différents. Un sur une pollution agricole importante, une sur des huiles de coupe pour une industrie, et une sur un site de traitement des ordures ménagères du lieu du département. C'est des pollutions qui sont graves, qui peuvent être graves et qui seront graves.
Est-ce qu'il y a certains poissons qui sont plus touchés que d'autres par les pollutions?
Disons que nous, la population majoritaire ici en Haute-Loire, c'est la truite, fario. Donc voilà, donc effectivement, c'est des poissons qui sont très sensibles à la pollution. On a constaté une progression importante entre 2019 et 2021. Et les pollutions qui remontent, c'est les pêcheurs qui nous font remonter. Systématiquement, nous, la fédération, maintenant, on dépose plainte et on les suit. Et ça permet aussi d'affirmer la position des pêcheurs comme étant des défenseurs de l'environnement. C'est important d'agir. Parce que nous, on agit pour la qualité de l'eau parce que nos poissons, ils sont dedans. Et pour faire simple et être très clair aussi, les poissons, personne ne les voit. Personne ne les voit parce qu'ils sont dans l'eau. Mais une fois qu'ils sont morts, c'est trop tard.
Brifchard en sac, 43 700. Des barrages entravent le passage des poissons. Ils ont été construits parfois pour faire de l'électricité, parfois pour faire des réserves d'eau ou pour créer des bases de loisirs. Mais certains sont aménagés, une bonne chose pour Roberto Eplé, président de l'association SOS Loire Vivante.
Là, on est donc sur un des trois seuils amovibles, c'est-à-dire des barrages qui peuvent être abaissés à la volonté. Et pendant l'époque ou la phase de l'année où le barrage est levé, il y a évidemment une nécessité de pouvoir permettre aux poissons de remonter ou de descendre. Et là, le long de l'ouvrage, mais aussi de l'autre côté, il y a deux passes à poissons. Donc là, ils peuvent descendre ou monter plutôt, sans problème. Mais pas toutes les poissons. Il y a des poissons qui acceptent mal des passes à poissons. Un saumon, par exemple, s'il y en avait ici, il n'aimerait pas trop. Hein. Il a besoin un peu plus de courant. Et puis il aura besoin de bassins un peu plus larges. Quoi.
Il y a 25 ans, le saumon avait presque entièrement disparu des cours d'eau d'Europe. On en élève au Conservatoire national du saumon sauvage à Chanteuge.
Oui.
Nous rencontrons Céline Bérard, la directrice adjointe.
Elle va arriver.
D'accord, merci beaucoup.
Pour elle, les barrages ont fait beaucoup de mal dans la Loire et l'Allier.
Bonjour, Céline Bérard, vous êtes pile à l'heure.
Même s'il y a un aménagement, il y a quand même un impact. Ça demande de l'entretien, c'est aussi compliqué que ce passage soit trouvé par les poissons. Donc mettre une passe, c'est bien, mais ça ralentit les poissons et ça cause toujours des perturbations. Aujourd'hui, notamment, je pense au barrage de Poutesse sur l'amont, qui a été réaménagé par EDF, où là, on commence vraiment à prendre en considération ce saumon et à allier la production et les impératifs biologiques de l'espèce. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent et c'est pour ça que nous, notre rôle de pisciculture de repeuplement, c'est de soutenir l'espèce, le temps qu'à côté, on aménage tout ça.
Vous allez changer le débit naturel de la rivière. L'eau stagne, l'eau qui se réchauffe va se polluer par des algues, etc., etc. Et si vous allez installer un barrage, deux, trois, voire des centaines de milliers, voire un million, dans toute l'Europe, c'est un million, vous posez un problème à la rivière. Elle va augmenter sa température.
Donc là, on monte au premier étage.
Oui, on va voir les géniteurs qu'on a capturés dans le milieu naturel, dans la rivière, alliés au niveau de Vichy. Ce qu'on sait, c'est qu'une femelle fait à peu près 10 000 ovules. Et sur ces 10 000 ovules dans le milieu naturel, moins d'un poisson va revenir. Il y a X raisons pour que dans le milieu naturel, il y ait des soucis pour ces œufs pour se développer. Et c'est là que notre rôle intervient pour justement assurer une production stable et en milieu un petit peu chouchouté pour pouvoir avoir plus de rendement, de résultats et comme ça soutenir l'espèce. Donc voilà tous les bassins.
Ils sont vraiment très grands.
Il y en a deux là, ouais. On a du mal à s'imaginer que dans la rivière, juste à côté, il y ait des poissons de cette taille-là.
Ça sent le poisson.
Moi, j'ai l'habitude, je sens plus.
Donc voilà.
Alors chaque année, on relâche des jeunes alevins qui ont passé 2-3 mois en pisciculture. On les relâche à la fin du printemps, fin mai, début juin, et on en relâche 470 000 chaque année.
Sur 20 ans, vous avez élevé combien de poissons?
Oula, j'ai jamais fait le calcul, mais il doit y en avoir quelques millions. si le conservatoire n'avait pas été mis en place depuis 2001, on aurait sûrement eu une population beaucoup plus faible et au risque même de l'avoir vu disparaître. Il faut encore beaucoup travailler sur les problèmes de qualité d'eau. On parle aussi de réchauffement climatique, puisque c'est un poisson d'eau froide, un salmonidé. Donc plus la température va monter, plus il a du mal à s'adapter. Et il faut que cette température ne monte pas trop vite pour lui permettre de s'adapter et d'avoir cette qualité d'eau et cette concentration en oxygène dont il a besoin pour survivre. Remettre du poisson pour remettre du poisson, c'est sans fin et ça ne suffit pas si on n'améliore pas les conditions de milieu.
Eh bien, vous allez me suivre ?
On a pris les bottes, on est bien préparés.
Ben, vous faites bien.
Ah oui, vous avez les bottes jusqu'aux cuisses.
Eh bien, on a guère le choix. Donc, Ludovic Beyeler, hydrobiologiste au service eau et assainissement du Conseil départemental de Haute-Loire. On est un département en tête de bassin. Donc, on est sur un secteur qui a des enjeux et des responsabilités vis-à-vis de l'aval. Le département est conscient de cette situation-là. Je crois que c'est une évidence. Je vais tout simplement aller réaliser des prélèvements d'eau pour évaluer la qualité des cours d'eau du bassin du Lignon, de manière à savoir si ces cours d'eau sont en bon état et s'ils ne sont pas en bon état, éventuellement, pour quelles raisons ils ne sont pas en bon état. Il nous faut des flacons pour aller prélever l'eau et la ramener au laboratoire. Il nous faut des appareils pour mesurer sur le terrain les paramètres physico-chimiques et puis de quoi mesurer le débit. Donc là, on est à 818 litres par seconde.
C'est bien ou c'est pas bien ?
Eh bien, je suis très content de le trouver à cette fin du mois de mai avec ce débit. Si on a une petite quantité de pollution qui va arriver au cours d'eau, si le cours d'eau est en situation de débit confortable, comme maintenant en haute zone, on va avoir une dilution de cette pollution. Si on est sur un cours d'eau qui est en situation de débit limite, on aura moins d'eau, donc on aura les effets de l'apport polluant qui va être beaucoup plus marqué. Donc là, quand on soulève, une pierre dans une zone de courant, ça c'est une larve d'éphémère plate, une larve d'épéorus. Une bonne partie seront mangées par les poissons. Donc là, on a, qu'est-ce qu'on a ici ? On a encore épéorus, notre éphémère plate. Après, il ne faut jamais s'arrêter un seul organisme, il faut toujours raisonner en termes de communauté, de peuplement un peu global. Mais effectivement, on va la trouver, à mon avis, avec d'autres espèces qui vont nous indiquer qu'on est quand même sur un cours d'eau qui est bien oxygéné et qui, globalement, reste quand même de bonne qualité. On est sur des milieux qui sont relativement sensibles, on est sur des organismes qui sont sensibles également. Donc la moindre pollution va les perturber, peut détruire un peuplement. On ne connaît pas véritablement les effets du réchauffement climatique. Donc là-dessus, comme je disais, il faut aider nos cours d'eau à ce qu'ils puissent être en mesure au maximum d'encaisser cette évolution-là.
C'était Une rivière vivante, un podcast de Mira Dengues et Yulika Côte, mixage Jean-Christophe Galen, Centre universitaire d'enseignement du journalisme.